16h04, Neon Pill, Cage the Elephant. L'heure de pointe commence à être loadée pas mal, Audrey.
Oui, la capitale direction ouest à la hauteur de Robert Bourassa. Il y a de bons ralentissements à prévoir direction ouest. C'est à la hauteur de Laurentienne que ça se passe. L'entrée du pont vers la porte direction sud, il y a des ralentissements de ce côté-là aussi. Sinon, c'est la 20 ouest là, qui est affectée. C'est entre Chemin des Îles et Taniata où c'est plus au ralenti. Quoi que ce soit d'autre, bien, ça passe par le 88-971-1021 par texto.
On manque pas d'histoire et on manque pas d'actualité. On a des choses à jaser avec notre observateur vétéran de tout ce qui se passe à Québec. François Bourque, salut!
Salut!
Comment ça va?
Oui, ça va bien.
Long time, nous aussi. Je sais que tu es venu pendant la semaine de relâche jaser avec les filles. Puis là, étant donné qu'on a eu plein d'actualités cette semaine, ben on a décidé de se réserver une case horaire pour jaser un peu. Et commençons avec ce vieux monsieur désagréable là, qui aura été, mon Dieu, ronchonneux jusqu'à la fin.
Pensez-moi pas les menottes. Hein?
Le bon monsieur Jacques Delisle, le bon juge, qui déjà est sorti
oui,
de prison.
Il y a une vingtaine de minutes de ça.
Bon.
Là, ça a été très, très bref.
Ça n'a pas été long. Hein?
Ouais. Mais c'est quel scénario jusqu'à la toute fin, cette histoire-là aurait été, j'allais dire... C'est pas un scénario de film, c'est un scénario de série.
Oui, ça va être plusieurs épisodes sur plusieurs saisons.
Sur plusieurs, mais en fait, le projet Innocence que des auditeurs ont peut-être suivi au cours des dernières semaines, c'est un peu cette histoire-là aussi. Là, D'ailleurs, ça s'est joué en partie sur le travail d'un groupe qui s'appelle Innocence Canada, c'est un groupe qui a travaillé à faire renverser la décision judiciaire en interpellant le ministre de la Justice fédérale. Donc, c'est un petit peu le même genre de projet. Que la série qu'on a suivie à la télé, le projet Innocence,
c'est
quelqu'un qui est condamné,
hein?
Puis on essaye de, par les voies politiques, on essaye de démontrer qu'il y a peut-être eu erreur judiciaire.
Est-ce que ça te dérange 15 ans de procédure judiciaire, puis on se retrouve avec les deux camps qui maintiennent chacun leur version des faits? C'est comme si on avait négocié pour que monsieur ne fasse pas de prison, plus que pour savoir qu'est-ce qui est arrivé dans ce dossier-là pour vrai.
Bien, c'est sûr qu'il y a une part de négociation qui arrive à la toute fin. Moi, je pense personnellement que l'issue de ça, parce que là, on peut vraiment parler d'une issue.
Ah, oh, c'est terminé,
là,
il ne se passe rien.
Il n'y a plus d'autre. Moi, je pense que finalement, c'est une issue qui va qui sert l'intérêt public. Ça peut paraître surprenant, mais
ouais.
Il y a déjà des fortunes d'argent public qui ont été consacrés à la gestion de tout ce dossier-là, là, à tout niveau, les appels, tant au fédéral qu'au provincial. Mm-hmm. Je pense qu'à un moment donné, c'était le temps de mettre fin à ça, parce que ça ne sert plus la justice dans le sens où, même si on avait obtenu une nouvelle condamnation, le gars, il a fait 9 ans en dedans. On ne le trouve pas sympathique, puis c'est vrai. Moi non plus, je ne le trouve pas sympathique, mais il a quand même fait 9 ans de prison en dedans. Donc, tu sais, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui a eu une free ride du système judiciaire. Il a payé et l'histoire va retenir de lui qu'il est un criminel. Maintenant, on ne peut plus faire autrement. Il a avoué. Donc, je pense que cet aspect-là, la justice est servie
mais
quand même.
François, il y a beaucoup
d'argent, puis de la mobilisation, des énergies, des effectifs judiciaires qu'il aurait fallu réinvestir là-dedans.
Ça, on le comprend tous, mais il y a une perception, puis c'est beaucoup ce qu'on a reçu dans les textos plus tôt aujourd'hui quand on parlait de la fameuse négociation sur le 8 ans, 311 jours, vu qu'il avait fait 310 jours. Il avait quand même été reconnu coupable de meurtre. Ça aurait dû être prison à perpétuité. Puis on a vraiment l'impression que, parce que c'est un individu qui a fait partie de notre système, il n'y a pas eu le même parcours que quelqu'un d'autre. On perçoit ça comme un traitement de faveur.
Bien, depuis le début, ça a été un élément important, cette perception-là. On voit justement. Mais je pense que dans ce cas-ci, il n'y a pas eu traitement de faveur. Le juge, il a été condamné, c'est allé jusqu'en Cour suprême, ça a été maintenu, ça a pris un autre mécanisme pour ordonner un nouveau procès. C'est le ministre de la Justice fédérale qui a fait sa propre enquête en parallèle du système judiciaire avec des informations nouvelles qui n'étaient pas disponibles au moment du procès. En fait, il y avait deux séries d'informations nouvelles lorsque le ministre fédéral de la Justice s'est mêlé de ce dossier-là. Un, des aveux du juge Delisle.
Ben oui.
Il avait toujours refusé de parler avant. Et là, il a raconté sa version de l'histoire, qui était une version... C'était quand même un élément nouveau. On peut trouver qu'il aurait dû en parler avant. D'ailleurs, il y avait supposément prévu le faire au premier procès, faire ses aveux.
Mais il avait pas
nous ont raconté une drôle d'histoire que sa bru l'avait rencontré la veille de son témoignage. Puis il avait dit « Hey, ça sera pas bon pour notre famille, pour les petits-enfants, si grand-papa vient raconter qu'il a aidé grand-maman à se suicider. » Bref, Le juge rationnel et froid se serait laissé convaincre par ça, puis aurait décidé de ne pas témoigner. Enfin, Maître La Rochelle, l'avocat, a aussi maintenu cette version-là, qui était prévue qu'il témoigne. Bref, cette version-là a été soumise au ministre fédéral à la justice, alors qu'elle n'avait pas été au jury. Et il y a eu d'autres témoignages d'experts balistiques, parce que ça s'est joué beaucoup autour de la balistique. Ils sont venus dire, bien, écoutez, la thèse de la... comme quoi madame aurait tenu l'arme, c'est... techniquement possible, ça ne veut pas dire que c'est ce qui est arrivé, mais c'est techniquement possible. Donc, ça pouvait soulever un doute raisonnable, parce que notre système judiciaire repose quand même sur le principe du doute raisonnable. Malgré tout, c'est vrai qu'il y a une perception que c'est un privilégié, qu'il y a l'impression un traitement de faveur, mais je pense que non.
T'as l'impression que Jacques Delisle, éboueur de formation, aurait eu exactement le même traitement. On aurait fait une enquête en parallèle à la lumière de nouvelles informations et ainsi de suite.
Des cas comme en fait, c'est sûr qu'il y avait les moyens de se payer des experts. C'est bien certain.
Oui, c'est ça.
C'est bien certain. Mais tu sais, au moment du procès, il y a une bonne partie de la communauté judiciaire qui s'était étonnée du verdict du procès. En disant, on a l'impression qu'il était resté des trous dans l'histoire. On n'a jamais... il a été condamné, mais il me semble qu'il y avait des trous dans l'histoire. Et normalement, un trou dans une histoire, ça pourrait soulever un doute raisonnable. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'avocats dans le monde judiciaire qui ont eu cette perception-là. Donc, est-ce qu'il y a eu un traitement de faveur pour Delisle? Moi, c'est pas ma perception.
Mais ça laisse un goût amer parce qu'encore... Là, au moment où on se parle, alors qu'il vient de sortir de sa peine de prison de quelques heures, il en reste des trous dans l'histoire. Puis on peut même aller plus loin que ça. Une histoire de meurtre par compassion, c'est pas laisser un gun chargé à portée d'une dépressive puis aller faire son épicerie. Je veux dire, il y a plein de choses qui, encore, sont questionnables et tiennent plus ou moins la route.
Absolument. Remarque, tu sais, le jury, lorsqu'il y a eu à se prononcer à l'époque, il était accusé de meurtre avec préméditation. Ouais. Puis je pense qu'au moment du délibéré, le juge avait entrouvert la porte en disant « Vous pourriez aussi arriver à la conclusion d'un homicide involontaire. » Bon, finalement, c'est ça la conclusion aujourd'hui, homicide involontaire. Même si le mot involontaire, moi, j'ai de la misère avec ça. Juridiquement, je comprends que ça décrit un certain nombre de faits qui correspondent. Mais là, s'il y a quelque chose qui n'est pas involontaire, c'est bien toute la démarche de Delisle dans cette histoire-là. C'est pas involontaire, c'était au contraire très planifié. Mais donc, l'hypothèse d'un suicide assisté ou de meurtre par compassion, la police l'avait envisagé à l'époque, l'a brièvement envisagé, puis a fini par l'écarter. Mais c'est une théorie, je pense, qui tient la route, puis avec laquelle il est possible de réconcilier la plupart presque tous les faits qui ont été présentés au procès. C'est une théorie qui était possible. Elle circulait d'ailleurs à l'époque du procès.
On s'est rappelé ensemble, Véro et moi, que les premières fois qu'on a parlé de cette histoire-là, on en a parlé comme une histoire de meurtre par compassion.
Exact.
Et on a été surpris quand les policiers ont écarté cette version-là. Puis on s'est dit, oh, OK, on est devant autre chose complètement.
Il y a quand même eu un délai de quelques mois entre le moment où elle a été retrouvée morte en novembre 2009 puis qu'il y a eu une arrestation et des accusations déposées contre le juge Delisle. C'était quelques mois plus tard. Puis après ça, on a vu les premières images du juge Delisle. Puis là, on s'est dit, OK, finalement, meurtre par compassion, c'est vrai. Ça pouvait juste pas arriver parce que, mon Dieu, qui est antipathique. Puis...
jusqu'à la fin, hein? Quand on lui a amené les menottes... Bien, premièrement, quand il est arrivé au palais de justice aujourd'hui, il a traité les journalistes de malades mentaux.
Ouais.
Et lorsqu'on a voulu lui passer les menottes, bien, il a regardé l'officier et il a dit, vous êtes pas sérieux, là? Il dit, bien oui, c'est de la
procédure. Ah non, c'était quelqu'un qui aurait été, donc, jusqu'à la fin de son histoire publique, un personnage arrogant, désagréable. Ouais. À l'époque, il faisait la leçon aux collègues journalistes sur la qualité de leur français dans les textes qu'ils écrivaient. Là, c'était vraiment un donneur de leçons. Donc, quelqu'un d'arrogant puis avec lequel on l'imagine mal agir par compassion.
Oui, et absolument.
Mais en même temps, toute la preuve à l'époque avait aussi raconté que malgré le fait qu'il avait une maîtresse depuis une vingtaine d'années, il s'occupait de sa femme, il en prenait soin. Bon, il y a des comportements de compassion qui ont été mis en preuve aussi dans cette histoire.
Mais tu sais, parallèlement, puis c'est drôle, parce que tantôt, je repensais à une histoire qui s'est déroulée aux environs de 2017. Michel Cadotte, du côté de Montréal, qui a eu un procès, meurtre par compassion, il s'est occupé de sa femme qui était atteinte d'Alzheimer grave jusqu'à la fin de sa vie. En fait, il a mis fin à ses jours avec un oreiller, puis il l'a raconté en cours. Il l'a assumé, il dit « J'ai craqué, ça faisait des années que je m'occupais d'elle. » Elle n'avait pas accès à l'aide médicale à mourir, puis ça avait fait jaser énormément. Ça contribue à la réflexion qu'on a.
Il avait laissé un oreiller, puis il est parti faire l'épicerie?
C'est ça.
Non, c'est pas ça qu'il a fait. Okay.
Non, mais tu sais, c'est pour ça, puis on on a eu d'autres histoires. On a eu la Timor, on a eu un tas d'exemples. Là, la compassion là-dedans, on a de la difficulté comme société.
C'est vrai,
là.
Mais à l'époque, le jury avait à choisir entre la thèse du suicide et la thèse du meurtre. Bon, dans la thèse du suicide, il y a plein de choses qui ne marchaient pas parce qu'avec juste une main de valide, madame n'aurait pas pu charger l'arme puis difficilement aller la chercher. Puis, alors, elle n'avait pas la mobilité qu'il faut pour ça.
Ouais.
Évidemment, elle n'a pas laissé de note de suicide. T'sais, il y a beaucoup d'éléments qui pouvaient faire douter de la thèse du suicide. Si on avait eu le témoin, c'est facile de réécrire l'histoire après coup, mais si on avait eu la version de Delisle à l'époque, est-ce qu'un jury aurait pu y croire à cette mm-hmm. version-là? Moi, je pense que c'est pas impossible. En tout cas, moi, je trouve que la preuve qui avait été déployée à l'époque, il laissait une place à un doute raisonnable. Est-ce que c'est possible que l'histoire telle que racontée par Delisle, ce soit vraiment celle-là qui soit arrivée? C'est pas impossible. Il y a les tenants du meurtre, puis la couronne dit « je crois encore à ma version, comme quoi c'est un meurtre ». Un des éléments centraux dans cette thèse-là, c'est qu'il y avait de la suie sur la main de la
victime. Ça
sonne
mobile.
On dit c'est pas compatible avec le fait qu'elle aurait tenu l'arme. C'est plutôt une indication que c'est un geste défensif. Par contre, c'est un geste défensif, ça veut dire qu'elle... Moi, je ne suis pas un spécialiste de la balistique. Par contre, il n'y a pas de sang sur la main. Est-ce que c'est compatible avec tout ça? Il y a toutes sortes de doutes.
Les pauvres membres du jury qui doivent voir deux spécialistes qui arrivent avec deux théories différentes, qui expliquent de façon scientifique en disant « Moi, je suis un expert, voici comment ça s'est passé. » Attenait le gun. L'autre expert dit « Voici comment ça s'est passé, attenait pas le gun. » Puis toi, tu n'as pas les connaissances que ces deux personnes-là ont, puis c'est toi qui dois trancher.
Et ça devient... et c'est ça, c'est un élément assez central dans la thèse de la défense.
Ouais.
Pour dire « Voici si cette preuve-là démontre que c'était techniquement possible que madame ait tenu le revolver. » L'autre thèse qui était celle de l'histoire de film, c'est-à-dire, voici un monsieur riche qui a une maîtresse depuis 20 ans, qui planifie de refaire sa vie avec elle, et puis qui n'a pas voulu y laisser la moitié de sa pension ou de ses avoirs. Donc, il y avait aussi cette thèse-là en parallèle, et puis qui était peut-être plus facile à croire par des citoyens ordinaires.
C'est sûr.
Est-ce qu'ils ont voulu se faire la peau d'un juge en disant les privilégiés ont toujours tout? Tu sais, c'est des questions qui nous ont traversées. C'est l'esprit à l'époque du procès. Est-ce qu'on a voulu être... Est-ce qu'on a été plus sévère avec Delisle parce que, justement, on ne voulait pas donner l'impression d'un parti pris? Est-ce que ça a été le contraire? Les deux théories sont possibles dans cette histoire-là.
Et il va vraisemblablement amener avec lui dans sa tombe beaucoup de ces réponses-là, parce qu'il reste des points d'interrogation.
Bien, en fait, le seul récit qu'on a des faits, il n'y a pas de témoin visuel, évidemment, dans cette histoire-là. Le seul récit détaillé qu'on a, c'est l'affidavit que Delisle a déposé au gouvernement, au ministre fédéral, mais c'est sa version
de l'histoire. Exactement, c'est sa version.
Et ce n'est que lui qui parle, évidemment, mais il relate les derniers instants avec son épouse, il l'embrasse avant de partir, je t'aime, pense-y comme il faut avant de procéder.
Il n'y a rien pour le confirmer,
c'est ça?
Non, on ne peut pas savoir. Mais tout à l'heure, Véro t'abordait la question, puis je trouve que c'est une question qui est centrale dans cette histoire-là, l'aide médicale à mourir. Si cette histoire-là survient aujourd'hui, que l'aide médicale à mourir est disponible pour une personne comme Mme Delisle, est-ce qu'on a une histoire?
Ouais.
Est-ce que les choses se seraient passées autrement? Je ne le sais pas, on ne saura jamais, mais c'est une question qui se peut se poser.
Oui? Puis l'autre affaire, il y a des histoires de meurtre par compassion qui ne se sont jamais rendues devant la justice parce que les moyens d'arriver à terme étaient humains. Puis là, on parle d'une arme à feu. Fait que ça aussi, ça fait... Disons que ça a fait beaucoup réfléchir.
La série va être bonne.
Ouais.
changeons de sujet, François. Est-ce que tu trouves, toi aussi, que le budget a été, comment dire, sans mauvais jeu de mots, catastrophique en début de semaine? Un budget nonchalant, à tout le moins?
Bon, je ne suis pas spécialiste de l'économie. Évidemment, j'ai eu la même surprise que tout le monde en prenant conscience de l'ampleur du déficit.
Parce qu'il y a eu une mise à jour économique il n'y a pas si longtemps. Hein?
Ouais, tout à fait. Mais moi, je pense que ça... En fait, moi, il y a 3-4 mots qui me viennent à l'esprit quand je regarde ce budget-là. C'est des mots, je trouve, qui décrivent ma perception de l'ensemble de l'œuvre du gouvernement Legault depuis le début. Absence de vision, donc qui se traduit par un besoin d'improviser à tout bout de champ, l'absence d'un plan précis. J'ai l'impression qu'on ne sait pas toujours où on s'en va. Puis là, déficit zéro, bien là, on ne le sait toujours pas. Oui, on reporte ça dans 5 ans. Bref, absence de vision et de plan, ça, il me semble, ça caractérise beaucoup la CAQ, donc l'improvisation qui va avec ça. les incohérences du gouvernement. T'sais. On va dire que c'est anecdotique, mais vous en parliez tout à l'heure. T'sais, la subvention aux Kings puis les salaires aux députés qui sont complètement à contresens de ce qu'on essaie de faire dans le budget. T'sais, je trouve que ça illustre un gouvernement qui est souvent dans... qui est souvent incohérent, donc inconsistant dans ses idées, et beaucoup de pensées magiques.
Oh oui!
dans la vision, dans l'approche de la CAQ.
Ça va s'arranger.
Ça va s'arranger. On va aller retourner couper dans les dépenses superflues du
gouvernement dans les
prochaines
années. On va accélérer notre économie.
Hey, mais ça fait combien d'années que tu es déjà au pouvoir et que tu étais censé faire ça? C'était dans l'ADN de la CAQ ou de l'ADQ avant d'essayer de faire resserrer un peu les dépenses de l'État. Et là, on explose en disant direction opposée.
Alors que du moment où ils ont été élus, il y a 6 budgets de ça. Tous ces engagements-là, on peut parler entre autres de la privatisation de la SAQ, de diminuer la bureaucratie pour accélérer les choses, puis ça coûte moins cher. T'sais, il y a plusieurs éléments que la CAQ a tassé du revers de la main. Puis là, ils nous arrivent aujourd'hui en nous disant « Ah, mais c'est des solutions pour ce qui s'est passé avec le déficit actuel. »
Mais tu sais, c'est ça, les économies... Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y a de la pensée magique dans bien des choses. Puis l'exemple qui venait à l'esprit, parce que c'était une des premières grandes promesses de la CAQ à l'époque, on va abolir les commissions scolaires, on va économiser je ne sais pas combien de centaines de millions par année. Bien oui, c'est vrai, il n'y a plus personne qui va avoir besoin de s'occuper du transport scolaire, de gérer les bâtiments, de gérer le personnel. Fait qu'ils ont juste changé le nom. Ils ont éliminé l'élection, qui n'était pas un scandale parce que le taux de participation aux élections scolaires était tellement faible qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu qui justifiait d'en faire un geste démocratique. Mais c'est ça, la pensée magique de dire on va économiser parce qu'on va abolir une structure, ça ne marche pas. Et c'est anecdotique, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de dire, OK, c'est sans personnaliser outre mesure, c'est M. Girard qui est le gars qui faisait des calculs sur les probabilités de retour des Nordiques à Québec en disant « Bon, il y a 5 villes dans l'air, il y a une chance sur 2 qu'il y ait une expansion. » Donc, il calculait que Québec avait 10 % de chance d'avoir une équipe. Mais là, c'est ce même gars-là qui fait ses calculs de probabilité de Nordique qui gère le budget de 100, combien, 30 quelques milliards du gouvernement du Québec.
Oh, c'est
je trouve qu'il y a quelque chose qui m'agace dans cette idée-là.
C'est drôle parce que dans l'entrevue que la gang de Reg a fait ce matin avec le ministre, c'est un ministre qui défend un peu mollement son budget, mais il s'anime à un moment de l'entrevue, à la fin, quand on commence à parler du match des Kings au Centre Vidéotron, là, soudainement, il devient volubile, il devient de bonne humeur.
Il n'a jamais remarqué le cynisme, mais là, soudainement, il trippait et il parlait des Panthers.
C'est sûr, c'est un peu anecdotique, mais en même temps, si quelqu'un est capable de se prêter à ce genre de calcul-là, à quelle sorte de calcul se prête-t-il quand il gère le déficit et le budget du Québec? Puis dernier petit élément qui est aussi anecdotique dans le budget, mais tu sais, c'est la rencontre préparatoire au budget qui se fait sur la rive sud de Montréal plutôt que sur
Longueuil.
À Québec.
Ça t'a dérangé ça?
Pardon? Oui, moi ça m'agace. Okay. On est dans les symboles, puis on est dans l'anecdote, puis ça n'a aucune conséquence. On est d'accord, mais tu sais, si le mot capital veut encore dire quelque chose, tu sais, on reprochait à l'époque à Mme Guilbeault de... Il y en a qui lui reprochaient, ça a été la pire ministre de la capitale de je ne sais pas si c'était de l'histoire, mais en tout cas des dernières décennies.
C'est pas un maire qui reprochait ça, non?
Oui, oui.
Ou un candidat à la mairie, peut-être, qui était celui qui allait le plus loin de ce côté-là. C'était M. Villeneuve, je pense, qui utilisait ces mots-là. Mais disons que M. Julien est assez discret, puis on voit qu'il ne pèse pas lourd dans ce gouvernement-là. Si jamais il s'est opposé à ça ou il a levé la main, on disait que ça n'a pas de bon sens. T'sais, c'est sûr que c'est anecdotique, puis ça porte pas à conséquence, mais je pense qu'il y a des signaux, des symboles. Quand tu veux quand tu dis ne pas vouloir créer de distraction autour de ton gouvernement, bien, t'sais, c'est un bel exemple. Pendant une journée, ils ont eu à se débattre ou à se défendre sur ce choix-là qui n'est pas lourd de conséquences, mais c'en est des distractions que le gouvernement crée lui-même.
Ça. C'est ça, c'est le mot qui m'était venu en tête cette semaine, c'est nonchalance. Oh, on est à Longueuil, ben c'est pas grave. Oh, on a donné 8 millions aux Kings.
Oh, c'est
pas grave non plus. On s'est donné une augmentation de salaire avant de négocier sur toute la fonction publique pendant 2 ans. On va s'arranger. On a 11 milliards de déficit, mais l'économie, ça va repartir. Hein? Tu sais, il y a quelque chose
c'est
de
pas
très...
grave, les usines de batteries vont relancer et projeter l'économie. Je dis pas que tout est mauvais dans cette idée-là, mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup de pensées magiques là-dedans. On n'aura pas besoin d'analyser les impacts environnementaux et tout ça. On passe par-dessus tout ça. C'est ça, le côté très improvisé de ce gouvernement-là, sans plan, sans vision de où tu veux aller. Bref, je trouve que le budget est très, très révélateur de ce qu'est ce gouvernement. gouvernement.
Je trouve qu'il y a un auditeur qui a un point qui est quand même intéressant. Pourquoi les politiciens ne sont pas imputables quand ils font des déficits? C'est débile de savoir que ces gens-là peuvent faire ce qu'ils veulent avec notre argent, s'en sortir sans jamais être imputables de quoi que ce soit.
Bien, il y a des gens qui amenaient cette possibilité-là aujourd'hui d'avoir une espèce d'évaluateur ou d'observateur qui pourrait justement encadrer le budget, puis qui serait objectif, puis qui serait apolitique.
C'est drôle, c'est le Parti libéral qui a ramené ça, puis c'était une des propositions de la CAQ à l'époque où ils étaient un parti d'opposition.
avoir un observateur neutre, je pense qu'au fédéral, ça existe, ce poste-là, d'avoir un observateur neutre pour aider à mieux comprendre les chiffres, c'est une chose.
Éviter qu'il y ait de la partisanerie.
Petit, le vérificateur général du Québec, à certains égards, joue un peu ce rôle-là, après coup, mais quand même, peut vérifier un certain nombre de choses. Question de l'imputabilité, bien, moi, je pense qu'ils sont imputables. Ça s'appelle une élection. Ça a lieu aux quatre ans. C'est sûr, ça vient tard longtemps après le budget, fois longtemps après que le dommage a été fait. Mais
encore là, François, ils vont perdre une élection, ils n'auront plus le pouvoir. C'est le parti d'après qui va avoir l'odieux, mais c'est notre société, c'est nous collectivement qui allons payer ce prix-là. C'est pas les politiciens qui, à un moment donné, eux autres, comme individus, vont avoir ce poids-là sur les épaules. On va passer à un autre gouvernement, puis ils vont vivre avec la chenoute.
On n'aime pas le budget, on va faire un sondage, puis on va renvoyer le ministre à la maison, au gouvernement, puis on va passer au suffisant. En même temps, je pense qu'il faut accepter un peu les règles du jeu politique. Le système n'est pas parfait, le système politique n'est pas parfait, mais c'est quoi les options qui sont viables, puis qui seraient préférables à celle-là? Moi, je suis pas sûr, là. Je pense que l'imputabilité, elle existe, même si des fois on aura envie de se venger plus vite d'une mauvaise décision.
Mais là, on dirait quasiment qu'ils ont le goût de se sauver, François, parce que là, la région de Québec est à l'étude. Hein? La suite de la promenade Champlain, à l'étude. Les projets de transport, à l'étude. C'est une belle phrase fourre-tout pour dire ça, c'est le prochain gouvernement qui va s'en occuper. Nous autres, on va être partis.
Je ne sais pas s'ils souhaitent vraiment attendre jusque-là. Mais en même temps, c'est intéressant de voir. C'est sûr que la réalité des deux villes n'est pas la même, mais de voir l'ampleur des ambitions de Montréal sur le transport en commun. On a vu ça cette semaine, une espèce de plan où on quadrillerait à peu près toute l'île.
Oui.
On peut penser que ça ne se fera pas demain matin, que peut-être ça ne se fera jamais.
C'est de la vision à moyen
terme.
Mais
au moins, il y a un plan d'ensemble. On dit, voici vers quoi on veut aller, puis c'est très ambitieux. À Québec, on ne sent pas cette vision ou cette ambition-là. C'est sûr que dans le cas de Montréal, ce n'est pas le gouvernement, c'est les autorités locales qui font la promotion de ce plan-là. À Québec, on sent que la ville est plus timide un petit peu. Oui, on parle de tramway, de phase 2 et 3, mais tu sais, il n'y a rien de très concret. Puis on pousse pas fort là-dessus en ce moment.
Effectivement, puis ça a l'air de plaire au gouvernement aussi, parce que c'est un manque de vision qui est comme partagé, puis quand t'as pas de vision, t'as pas de dépenses à côté, j'imagine.
Il se passe rien, puis pendant ce temps-là, d'autres vont peut-être vont continuer à avancer, puis ils vont profiter de l'argent qui peut être disponible quand il y en a encore.
François Bourque, merci beaucoup.
Hey, c'est un plaisir.
J'espère qu'on va t'utiliser comme consultant quand ils vont faire la série Netflix sur Jacques Delisle. Ça va en prendre, là. J'ai l'impression qu'ils vont être capables de faire plus que 4 épisodes avec ça.
T'as pas du temps pour écrire une série, toi?
À 16h27, vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour. On va faire le grand tour, les nouvelles, la circulation dans les prochaines minutes. 418-971-1021 pour les ajouts. Gravel. Boulevard.